Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Du Grain à Moudre d'été, on est ensemble jusqu'à 19h ce soir. L'ONU est-elle toujours en mesure d'imposer la paix ? Le secrétaire général de l'ONU doit pouvoir dire non. C'est ce que dit Lakhdar Brahimi, ancien représentant spécial des Nations Unies pour la Syrie. Non à une action de l'ONU dépourvue de moyens et d'hommes, dépourvue d'engagement politique de la part des États qui en sont membres. Ces paroles de Lakhdar Brahimi, on les entend dans le documentaire de Pierre-Olivier François sorti l'année dernière, L'ONU, dernière station avant l'enfer. Un documentaire qui sillonne la frontière israélo-libanaise, la République démocratique du Congo, la Centrafrique avec cette question. Entre autres, peut-on imposer la paix avec des forces militaires? Peut-on imposer la paix tout court et peut-on vraiment la maintenir, surtout aujourd'hui dans un pays comme le Soudan du Sud, où plus de 50 000 personnes sont mortes dans une guerre civile qui dure depuis 2013? Un conflit qu'un 8e accord de paix signé l'année dernière n'a pas du tout réglé. La MINUS, mission de maintien de la paix de l'ONU au Soudan du Sud, en place depuis 5 ans, forte de 12 000 soldats, doit peut-être aujourd'hui voir arriver un nouveau contingent. Les négociations ont lieu en ce moment et tout l'enjeu de ce qui est en train de se passer, c'est celui de l'engagement des États impliqués dans cette mission, une mobilisation parfois compliquée, déjà une bataille en elle-même dans les coulisses de l'ONU, une organisation qui peine parfois à se faire entendre et se voit souvent reprocher une action tardive, mal ou non coordonnée. Pourquoi faire la paix? Parce qu'aujourd'hui, plus que jamais, notre sécurité ne s'arrête pas à nos frontières, remarque un ancien haut fonctionnaire de l'ONU, ce qui implique selon lui des changements, des transformations à mettre en œuvre, mais lesquelles? Alors l'ONU est-elle toujours encore en mesure d'imposer la paix? C'est notre sujet du jour. Et pour en parler, Marc Lavergne est avec nous. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes géopolitologue, directeur de recherche au CNRS, spécialiste du Soudan du Sud. Et vous avez également coordonné un groupe d'experts auprès du Conseil de sécurité de l'ONU pour le Darfour. C'était en 2006. Au téléphone, Guillaume Devin, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes enseignant-chercheur rattaché au CERI, le Centre d'études en relations internationales de Sciences Po, co-responsable du programme de recherche transversale du CERI Sociologie des pratiques diplomatiques, et vous avez republié dernièrement chez Armand Collin les organisations internationales. Et notre troisième invité est avec nous depuis les locaux de France Bleu Frequenza Mora à Bastia. Il s'agit de Pierre-Olivier François. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes journaliste, documentariste, vous avez été attaché de presse il y a presque 20 ans maintenant pour l'Assemblée Générale et le Conseil de Sécurité de l'ONU. Et vous avez réalisé un documentaire pour Arte, l'ONU, dernière station avant l'enfer, autour de la question comment une organisation peut imposer la paix avec des forces militaires. On en écoute un extrait tout de suite.
Depuis une quinzaine d'années, on s'est rendu compte qu'il fallait un autre maintien de la paix, qui n'opposait plus seulement des États, mais qui étaient souvent des guerres civiles entre le gouvernement et des groupes armés, tout simplement entre groupes armés. Et évidemment, ces gens-là n'ont plus de respect pour la vie des civils, le droit de la guerre, ils en ignorent tout, le droit humanitaire a fortiori, le drapeau bleu des Nations Unies, ça leur est complètement indifférent.
La plupart des situations dans lesquelles on déploie maintenant des casques bleus sont dans une zone grise, où c'est plus tout à fait la guerre, mais ce n'est pas vraiment la paix. Et donc, ce n'est pas les casques bleus qu'on déployait sur le canal de Suez pour la première mission armée des Nations Unies. C'est des situations de sortie de guerre civile, où on peut revenir à la guerre civile. Et donc, il faut être prêt à prendre des risques. Et là, ça dépend de la qualité des troupes. Et ça dépend aussi, franchement, disons-le, de l'engagement des pays qui prêtent ces troupes.
Alors, on vient d'entendre Serge Ladsous, chef des opérations de maintien de la paix des Nations Unies, et Jean-Marie Guéhenneau, un ancien haut fonctionnaire des Nations Unies. Ce qu'on vient d'entendre reflète un peu ce qui se passe en ce moment au Soudan du Sud, des opérations de maintien de la paix fragiles dans un pays en pleine guerre civile depuis 2013. Depuis une quinzaine d'années, on a besoin d'un autre maintien de la paix, entend-on dans ce documentaire, au début de ce son. Est-ce qu'il se traduit sur le terrain, Marc Lavergne, ce nouveau maintien de la paix, en tout cas au Soudan du Sud, et ou sinon, par quoi doit-il passer ce nouveau maintien de la paix ?
Vaste sujet. Bon, il me semble que le Soudan du Sud est un terrain qui sert de révélateur, finalement, à cette impuissance ou à cette incompétence de l'ONU. Il y a un déploiement onusien sous forme humanitaire puis sous forme militaire depuis 1989 dans ce pays avec l'opération Lifeline Soudan, et grosso modo depuis l'époque, c'est-à-dire aujourd'hui plus de 25 ans, c'est 1 milliard à 1 milliard et demi de dollars par an qui est déversé par l'ONU au Soudan, et je ne compte pas les agences dites humanitaires de l'ONU que sont l'UNICEF, le PAM et le HCR par exemple.
Oui, Guillaume Devin, sur cette question, est-ce qu'on a besoin d'un nouveau maintien de la paix? Est-ce qu'il se traduit déjà sur le terrain?
Bah, d'abord, je répondrai que sur le Soudan, la véritable intervention des Nations Unies, elle date quand même de 2011. Et quel était l'objet à cette époque? C'était de consolider la paix, c'est-à-dire d'essayer d'aider à la construction de l'État du Soudan du Sud. Devant le déclenchement de la guerre civile, le Conseil de sécurité a décidé de renforcer la mission et de lui donner une toute autre orientation, c'est-à-dire non seulement de consolider une paix qui n'existait pas, et d'essayer de renforcer une administration qui ne se construisait pas, mais en même temps de protéger les populations civiles, de surveiller le respect des droits de l'homme, de s'assurer des conditions d'acheminement de l'aide humanitaire, etc., etc. C'est-à-dire des tâches multiples, considérables, peut-on même dire, dans un pays où les rivalités et les combattants sont entremêlés, et l'ensemble étant assuré par environ, comme vous l'avez dit, 12 000 personnes sur place. Donc cela pose effectivement le problème de savoir si des opérations aussi complexes, multidimensionnelles, c'est-à-dire à la fois militaires, politiques, administratives, financières, économiques et sociales, humanitaires, sont possibles avec si peu de moyens.
Alors, vous venez de dire que l'objectif ici, c'était de maintenir une paix qui n'existait pas. Et justement, Pierre-Olivier François, une petite question sur le making-of de ce documentaire. Vous posez cette question, comment imposer une paix par une force militaire? Comment imposer, maintenir une paix qui n'existe pas? Qu'est-ce qui a motivé l'envie de faire ce documentaire et ce questionnement-là? Est-ce que ça vient, vous qui avez connu l'ONU de l'intérieur, est-ce que ça vient d'un questionnement que vous faisiez à vous-même sur le bon fonctionnement de l'ONU et sur le fait que et sur sa question, est-ce que c'est adapté au monde d'aujourd'hui et aux conflits d'aujourd'hui, ce fonctionnement de l'ONU?
Alors oui, effectivement, j'ai eu la chance quand j'ai travaillé là-bas, c'était assez bref, mais c'était en 1999 et c'était une époque où l'ONU était en pleine crise d'identité déjà parce que elle était en train de réfléchir pourquoi elle avait failli en Bosnie et au Rwanda, où il y avait des casques bleus, et malgré tout, ils n'ont pas réussi en Bosnie à imposer une paix, et en Rwanda, ils n'ont pas du tout réussi à empêcher un génocide. Donc, en essayant de regarder cette grosse machine, parce que c'est quand même complexe, l'ONU, c'est tous les États du monde, c'est les grandes puissances et les petites puissances qui essayent de trouver un moyen d'agir ensemble et de se mettre d'accord pour envoyer des soldats étrangers dans des lieux de conflit plus ou moins pacifiés ou en voie de pacification pour imposer la paix, c'est-à-dire pas faire la guerre, mais avoir malgré tout des soldats qui vont essayer de calmer la situation, voire d'aider les gens sur place à se parler. Tout ça, je trouvais ça extrêmement complexe, intéressant, et on a essayé en se rendant sur différents terrains, pas le Soudan en l'occurrence, donc qui est un terrain particulièrement compliqué, mais on a été en République démocratique du Congo, qui est extrêmement difficile aussi, en Centrafrique ou au Liban, pour voir comment ça marche.
Alors vous soulevez un point intéressant qui est la question du fonctionnement même de base de l'ONU, qui est l'envoi de soldats étrangers dans un pays pour essayer de construire les conditions d'une paix. Le militaire Romain Cassan, à ce propos, dans une tribune publiée dans la Revue de la Défense Nationale, écrit que la compréhension du mandat fixé par le Conseil de sécurité n'est pas systématiquement compris selon les contingents. De la même manière, se mettre d'accord sur les opérations de protection des populations, ça nécessite parfois un minimum de coordination qui n'est pas là. Est-ce que c'est ça le problème principal aujourd'hui, Marc Lavergne, sur le terrain de la mission de l'ONU, de cette mission de maintien de la paix?
Je crois que l'ONU a deux problèmes majeurs. D'une part, c'est une administration, ça n'est pas une mission, c'est une administration extrêmement lourde, extrêmement composite, avec ses 194 pays, où la carrière se fait non pas à la compétence, mais beaucoup avec un équilibre justement entre les nationalités, les continents. C'est une grosse machine qui digère et qui absorbe beaucoup d'énergie pour son fonctionnement propre. Et finalement, l'expression à l'extérieur de ses capacités est un sous-produit de cette machine onusienne. Et puis, il y a bien sûr le jeu des cinq membres permanents du Conseil de sécurité qui sont, eux, le cœur de la machine et le véritable moteur. Hein. Le reste, l'Assemblée générale, tout ça suit, je dirais, et les membres non permanents également. Donc, quand les Américains et les Russes sont d'accord, en gros, ça marche. On peut lancer des opérations. Quand ça frotte, comme aujourd'hui, à propos du Sud-Soudan, on s'aperçoit qu'il y a des négociations à l'heure où on parle, qui s'enlisent parce que il y a une opposition entre les États-Unis qui veulent à tout prix, et même contre l'avis du gouvernement, envoyer des troupes supplémentaires au Sud-Soudan, et la Russie qui refuse. Donc, c'est un exemple pour montrer que, finalement, on parle de mission. Moi, je trouve que on a souvent des propos assez lénifiants à propos du fonctionnement de l'ONU, comme ce qu'on vient d'entendre. Pas beaucoup de moyens, il faut envoyer plus d'hommes. Je pense pas que ce soit la solution, que 12 000 hommes, c'est déjà énorme, même si le Sud-Soudan est plus grand que la France.
Et ce serait quoi la solution ?
12 000 hommes qui seraient motivés, qui serait coordonné, qui serait dirigé, qui parlerait la même langue, qui aurait les mêmes équipements, la même formation, qui serait surtout motivé et qui ne viendrait pas de pays juste pour avoir une solde un peu supérieure à celle qu'ils ont dans leur pays d'origine, eh bien ça marcherait peut-être mieux. Et puis aussi, s'ils avaient un mandat, qui soit un mandat clair d'interposition entre les parties combattantes.
Pierre-Olivier François, est-ce que la solution sur le terrain, c'est une unification des ordres sur le terrain, une meilleure coordination?
C'est sûrement le cas, mais ce qu'on a vu sur le terrain, ça dépendait des terrains, hein, mais au Liban, par exemple, il y a 35 pays différents et la coordination n'était pas le problème principal.
C'était quoi le problème principal ?
En l'occurrence, au Liban, c'est que ni le Liban ni Israël ne veulent faire la paix. Donc les casques bleus, ils sont essentiellement là pour empêcher un nouveau conflit. Et comme ils gênent, ils observent, ils regardent, ils notent, ils font savoir. Et comme partiellement, c'est des troupes qui intéressent et les Libanais et les Israéliens qui veulent pas se fâcher avec les États qui ont donné des troupes, eh ben ça grippe. Ce que dit monsieur, c'est sûrement valable, par exemple, au Congo. Mais là aussi, est-ce que, au Congo RDC, parce que là-bas, il y a une force, il y a une brigade d'intervention avec des hélicoptères de combat sud-africains, tanzaniens, etc., qui a été assez efficace par rapport à un des groupes rebelles qui pose problème sur place. Mais d'autres troupes à l'intérieur, les Indiens, les Népalais, les Pakistanais, sont beaucoup moins chauds d'aller au front. Et à l'intérieur de l'ONU, un certain nombre de gens disent on peut effectivement taper dessus de temps en temps, de manière efficace, si les gens sont d'accord, si les rebelles ne sont pas au milieu de la population civile, et si on a les moyens ensuite d'assurer un vrai maintien de la paix sur place.
Guillaume Devin, vous dites que ces opérations de maintien de la paix et les soldats et tout le personnel qui se mobilise dans le cadre de ces missions se sont professionnalisés depuis une vingtaine d'années.
Oui, alors d'abord, je voudrais revenir sur le fait que je ne pense pas tenir des propos lénifiants. Je pense simplement remettre un peu en perspective les opérations de maintien de la paix. D'abord, il faut rappeler tout de même aux auditeurs que le maintien de la paix n'était pas prévu par la Charte des Nations Unies. Hein. C'est un succès d'année de quoi ? D'une sécurité collective impossible. Des dispositions étaient précises dans la Charte des Nations Unies. Ces dispositions n'ont jamais été appliquées, c'est-à-dire la mise à disposition des Nations Unies de contingents, d'armées nationales, un état-major commun, etc. Ceci n'a jamais eu lieu. Et donc, faute de sécurité collective, s'est développé de manière tout à fait pragmatique, ad hoc, à partir du conflit de Suez, notamment en 1956, une intervention qui est une intervention mal taillée, une intervention hybride qui s'appelle opération de maintien de la paix. En fait, aujourd'hui, on ne fait plus simplement du maintien de la paix. Les Nations Unies ont considérablement étoffé leur palette d'intervention, de la prévention en amont, au maintien de la paix, voire à la consolidation de la paix au sein du conflit, et à au rétablissement de la paix, je dirais, en aval, une fois que cessez le feu et éventuellement une paix fragile ou précaire est rétablie. Donc, il y a eu des avancées considérables depuis une cinquantaine d'années. Et évidemment, ces avancées ne sont pas satisfaisantes. Évidemment, ces avancées ne permettent pas d'imposer la paix, comme l'indique le titre de votre émission. Mais les Nations Unies ont-elles jamais été capables d'imposer la paix ? Non. Précisément, ce qui a été possible et ce qui s'est construit progressivement, c'est ce maintien de la paix. Alors maintenant, ce maintien de la paix, comment l'améliorer ?
Alors justement, c'est la question sur laquelle on va revenir dans quelques instants. Guillaume Devin, je me permets de vous interrompre parce que j'aimerais, avant d'aller vers ce questionnement assez large qui va nous prendre un peu de temps dans ce débat, faire un point sur ce qui nous amène ici aujourd'hui, c'est-à-dire cette actualité au Soudan du Sud. Le Conseil de sécurité de l'ONU, donc comme je l'ai dit au début de l'émission, doit voter aujourd'hui sur le déploiement de 4 000 casques bleus supplémentaires sur les 12 000 déjà présents au sein de la MINUS, la mission des Nations Unies. Ce que refuse le gouvernement de Juba, comment une mission de maintien de la paix peut accomplir sa mission dans un tel contexte de défiance aujourd'hui, Marc Lavergne ?
Je crois que c'est à peu près impossible. On était à 12 000 hommes, on était passé de 10 000 à 12 000 hommes l'an dernier, et il n'y a pas eu une vie humaine de sauvée par ces 12 000 hommes. C'est-à-dire que leur mandat est d'abord de protéger les locaux et les fonctionnaires de l'ONU. Et en fait, la population civile, la population est toujours
c'est estimé
civile,
oublié.
C'est réfugié dans les camps de l'ONU. Mais l'ONU n'était pas particulièrement heureuse de voir débarquer tous ces gens qui venaient se réfugier en son sein. Donc ils ont assuré une protection comme ça, contraint et forcé, je dirais, mais ça n'allait pas plus loin. Alors, ajouter 4 000 hommes aujourd'hui, d'où viendront-ils, avec quel mandat, quelle motivation ?
On voit pas en
quoi ça pourrait changer la donne, surtout si ces hommes sont cantonnés, comme on en parle, à Djouba, dans la capitale. Parce qu'il se passe beaucoup de choses sur le terrain, mais ça demande des moyens logistiques et une volonté véritable de résoudre le problème qui n'existe pas aujourd'hui à l'ONU. Le Sud-Soudan n'est pas un enjeu stratégique pour quiconque, et certainement pas pour le secrétaire général.
Juste à ce titre, Hilde Frafjord-Johnson, la représentante spéciale du secrétaire général de l'ONU pour le Soudan depuis de 2011 à 2014, dénonce, elle, dans une interview qu'elle a donnée au Monde, un manque d'implication de la communauté internationale et un manque de moyens propres alloués à cette mission. Est-ce que ça aussi, ce manque d'engagement de la part des États membres, c'est un problème majeur à régler aujourd'hui ?
Tout le monde se renvoie la balle, mais finalement, au Sud-Soudan, comme ailleurs en Afrique, je crois qu'il y a d'une part ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire effectivement le manque d'engagement des puissances ex-coloniales ou des puissances occidentales ou bien aujourd'hui de la Chine et de la Russie, et puis d'un autre côté un problème interne de fonctionnement et d'adéquation entre effectivement les moyens, mais pas les moyens financiers. Je pense que les moyens humains, c'est-à-dire l'engagement de l'administration onusienne, de la tour de verre de New York, est vraiment minimal aujourd'hui dans tous ces conflits. Il y a des gens sur le terrain qui sont recrutés dans des pays généralement pauvres et qui vont donc encore une fois essayer de maintenir la paix, mais certainement avant tout de se sauver eux-mêmes. Hein. Ils sont là pour toucher une solde confortable par rapport à ce qu'ils gagneraient ailleurs. Donc on a une situation où Madame Johnson, qui a une part de responsabilité énorme dans le conflit actuel, essaye de se défausser sur les puissances tutélaires. Et je pense qu'elle n'est pas responsable. Elle a été nommée à la tête de la mission au Sud-Soudan par M. Ban Ki-moon. Elle a assumé tout ce qu'on attendait de l'ONU et qui a été décrit tout à l'heure, c'est-à-dire démilitariser, former l'administration. Je trouve que l'ONU a été un petit peu inconséquente de s'arroger toutes ses prérogatives à la place d'un État que les Américains avaient voulu faire naître à cet endroit sans en assumer eux-mêmes la charge.
Pierre-Olivier François, dans votre documentaire, on entend les mots de Lakhdar Brahimi que je citais en tout début d'émission. Le secrétaire général de l'ONU doit dire non, ce n'est pas possible d'imposer la paix avec juste 10 000 hommes dans le cadre d'une crise comme celle du Darfour. Est-ce que c'est ça aujourd'hui le problème pour vous? Je vous pose la question à vous aussi. Est-ce que c'est ça le problème, l'engagement international, l'engagement des pays membres du Conseil de sécurité par rapport à des problématiques qui leur semblent peut-être un peu lointaines?
En tout cas, c'est ce qu'on nous a dit à différents échelons. Lakhdar Brahimi, qui a été l'auteur d'un grand rapport sur comment faire 2000, que les opérations maintien de la paix puissent être efficaces, le dit clairement. L'ONU devrait pouvoir dire non contre ses États membres, et notamment les grands au Conseil de sécurité, si elle estime qu'elle n'a pas assez de moyens, par exemple, apparemment, au Soudan actuellement. En même temps, je pense que c'est... à l'heure de Twitter, à l'heure des informations permanentes, très difficile pour l'ONU de dire non. C'est-à-dire que, imaginez-vous quelque chose qui soit voté au Conseil de sécurité, on va donner 10 000 soldats pour protéger un pays qui est peut-être grand comme la France, l'ONU dit non. Est-ce que vous pensez que ce sera facile à expliquer à toutes les télévisions du monde qui vont encore une fois dire « l'ONU ne sert à rien, regardez, ils refusent d'aider les gens, ils ne veulent pas sauver... les personnes qui sont sur place. » Donc l'ONU se trouve coincée entre ce que lui demande son patron, le Conseil de sécurité, et les peu de moyens qu'elle a, et elle fait de bric et de broc, plus ou moins bien, avec parfois, oui, des hauts fonctionnaires qui sont pas forcément les plus adaptés, qui viennent d'un pays qu'ils connaissent pas forcément, avec des troupes qui sont plus ou moins motivées. Et encore une fois, je ne dirais pas parce qu'elles viennent de pays du Sud qu'elles sont moins motivées. Moi, j'ai vu aussi des troupes de pays riches qui sont là sans être hyper, hyper motivées ou sans avoir une pression très forte de leur État pour s'engager. Donc, l'ONU, c'est souvent la dernière station avant l'enfer.
Guillaume Devin, sur cette question d'un ONU coincé dans une bureaucratie assez lourde et qui attend après des pays qui ne s'engagent pas assez pour certains conflits, pour certaines problématiques, est-ce que c'est ça aujourd'hui que l'ONU devrait s'attacher à régler? Est-ce que c'est cette question de l'engagement, et si oui, comment?
Mais les conditions nécessaires pour qu'une opération de paix réussisse sont connues. Il faut un mandat clair, une mission précise et des moyens suffisants. Alors, le mandat clair, la mission précise et les moyens suffisants, cela requiert un engagement politique. Un engagement politique de qui? Un engagement politique du Conseil de sécurité, à commencer par les 5 membres permanents du Conseil de sécurité. La bureaucratie onusienne dont vous parlez, elle a une marge de manœuvre relativement limitée dans cette affaire. Quant à cette bureaucratie lourde, elle n'est pas si lourde que ça. N'exagérons rien, le département des opérations de maintien de la paix ou le département de l'administration politique qui vient en soutien des opérations de maintien de la paix ne représente pas des centaines de milliers de fonctionnaires. Hein. La totalité des fonctionnaires autour du secrétariat général, c'est 40 000 personnes. Hein. 40 000 personnes au total avec les institutions, les organes annexes, c'est 70 000 personnes, hein, c'est-à-dire 1,5% de la fonction publique française.
Est-ce qu'il n'y a pas un souci d'adaptabilité aujourd'hui?
Que les opérations de maintien de la paix soient coûteuses, là aussi, il faut tout de même relativiser. Hein. Les Nations Unies sont là où personne ne veut aller. Hein. Et l'ensemble coûte combien? L'ensemble coûte environ 7,5 milliards d'euros. 7,5 milliards d'euros, c'est moins que le budget de la ville de Paris. Hein, pour 16 opérations et 100 000 personnes qui sont sur le terrain, c'est-à-dire la plus grande armée du monde. Alors, il faut aussi relativiser ces chiffres, ces figures et les appréciations qu'on peut porter.
Alors, je voudrais poser la question de l'adaptabilité de l'ONU et de ses missions par rapport au monde que l'on vit aujourd'hui. Et à ce titre, par les 5 pays, la France, la Chine, les États-Unis, le Royaume-Uni et la Russie qui composent le Conseil de sécurité de l'ONU, des pays dont on dit que ce sont les mêmes depuis les 5 puissances qui ont remporté la Seconde Guerre mondiale et que les temps ont changé, que ce Conseil de sécurité doit s'adapter. Est-ce que c'est votre avis, Marc Lavergne?
En l'occurrence, je ne suis pas sûr que ça changerait beaucoup de choses si le Japon ou l'Allemagne étaient membres du Conseil de sécurité. On se trouverait face au même problème. Et plus il y aurait de membres permanents, plus l'unanimité serait difficile à trouver. On a évoqué la question du veto tout à l'heure. Ça, c'est aussi un problème connexe. Je ne suis pas sûr. C'est un sujet important, mais qui est différent de celui qu'on a abordé avec l'échec de ces missions militaires dans des pays.
En quoi différent ?
En ce que les pays qui pourraient venir en support de la composition actuelle du Conseil de sécurité ne sont pas des pays qui changeraient fondamentalement la donne, qui sont particulièrement motivés ou impliqués ou compétents pour intervenir dans ces conflits, parce que je ne vois pas de pays, disons, en prise avec des conflits qui seraient susceptibles de rejoindre le Conseil de sécurité en tant que membre permanent. Donc je pense aujourd'hui que la réalité du problème, c'est plutôt la compétence. On parle uniquement de résoudre les conflits par leurs conséquences sans s'adresser à leurs causes. Alors la question est de savoir si l'ONU, qui a prétendu aussi régler les causes des conflits, c'est-à-dire s'occuper de développement, de désarmement, tout ce qui a été évoqué tout à l'heure, eh bien est-ce qu'elle n'a pas failli là aussi d'abord ? Est-ce que la solution des conflits qui se multiplient à l'échelle de la planète, c'est pas d'abord de s'occuper des racines des problèmes ?
Guillaume Devin, sur cette question, est-ce que l'ONU devrait plus s'intéresser aux causes des conflits plutôt qu'à leurs conséquences?
Écoutez, je pense que quand on connaît quand même un peu le fonctionnement et l'histoire des Nations Unies, on ne peut pas considérer que les Nations Unies ne s'occupent pas des causes, et notamment de toute la dimension économique et sociale et du développement d'un nombre important de pays. Bon, alors après, la question là aussi, c'est le verre à moitié vide et le verre à moitié plein. Les résultats sont mitigés. Les objectifs millénaires pour le développement, ou bien à partir de 2015, les objectifs de développement durable, sont des objectifs qui mobilisent l'ensemble des institutions spécialisées et des organes subsidiaires des Nations Unies. Mais pour revenir sur les questions institutionnelles, je ne suis pas effectivement sûr que l'élargissement du Conseil de sécurité règle comme d'une baguette magique l'ensemble des problèmes. Je pense que c'est du côté de l'Assemblée générale des Nations Unies que l'on devrait faire porter nos efforts. C'est du côté de l'Assemblée générale des Nations Unies que les diplomaties devraient s'investir de manière beaucoup plus substantielle.
Pourquoi ?
Parce que c'est à l'Assemblée générale des Nations Unies qu'il y a aussi les petits, les moyens, ceux qui souffrent, les pays qui ont le plus de problèmes, et c'est là aussi que les grands pays devraient intervenir. C'est là où les grands pays devrait être présent, je veux dire, dans cette Assemblée générale des Nations Unies. Et ça ne nécessiterait pas nécessairement beaucoup de réformes que de décider que les premiers ministres, les présidents, les chefs d'État soient plus présents à l'Assemblée générale des Nations Unies et décident de faire de ce forum un forum important, comme d'ailleurs il a été un forum important dans les années 50 et 60.
Pierre-Olivier François, par rapport à cette question du règlement des causes de conflits par rapport aux conséquences, c'est quelque chose que vous aviez observez-vous en Centrafrique ?
En tout cas, la Centrafrique, c'est la dernière mission de casque bleu qui a été créée par les Nations Unies. Et pour la première fois, ils ont essayé de joindre à la fois des casques bleus militaires traditionnels pour essayer de reconstruire, de recréer de la sécurité. Et en même temps, puisque c'est une autre mission multidimensionnelle qui a pour mission de recréer un État là où il n'y a quasiment plus, de faire ça en coopération avec le programme des Nations Unies pour le développement, en se disant la Centrafrique, c'est quasiment le pays le plus pauvre du monde, tout le monde s'en fiche. Si on veut recréer quelque chose là-bas, il faut pas seulement qu'on recrée de la sécurité, mais aussi du développement. Donc ils essayent progressivement d'apprendre et de tirer des conclusions de ce qui a été dit ailleurs sur le terrain.
Et on voit aussi dans votre documentaire qu'il y a plus de policiers des Nations Unies.
Il y a beaucoup plus de policiers, notamment parce que les militaires, ils sont là pour faire du travail du militaire. Ouais. Les policiers, eux, ils peuvent agir sur le terrain, dans les villes, plus concrètement. Ouais. Ils n'ont pas la même formation pour le contact avec les gens directement. Après, ça prend un temps très très long et il faut qu'il y ait
à la fois de la volonté sur place, du soutien de la part de New York, donc des grandes puissances, et une inscription dans la durée. C'est-à-dire que si, tant qu'il y a des événements sanglants, des images, les grandes puissances s'en intéressent, et dès que c'est sorti, tout le monde s'en fiche, eh ben, c'est difficile pour une mission sur place de continuer à agir, de mobiliser des fonds, des acteurs, etc. Donc on verra, mais la Centrafrique, vous en entendez encore beaucoup parler ?
Plus vraiment, non.
Voilà, donc à suivre, si ce genre de maintien de la paix 2.0, où on essaye aussi de recréer des possibilités pour qu'un État s'en sorte tout seul, une fois que les casques bleus sont partis, ça puisse marcher.
France Culture, du grain à moudre d'été, Émilie Chaudet.
L'ONU est-elle encore en mesure d'imposer la paix ? Est-elle toujours en mesure d'imposer la paix ? On en parle avec les deux chercheurs Marc Lavergne et Guillaume Devin, le journaliste et documentariste Pierre-Olivier François, auteur du film « L'ONU, dernière station avant l'enfer ». Vous avez soulevé, Pierre-Olivier François, la question de la visibilité de ces pays dans lesquels l'ONU impose des missions de maintien de la paix. On peut aussi, du coup, poursuivre sur cette le temps dans lequel intervient l'ONU, cette temporalité de l'action de l'ONU et notamment cette question du droit de veto. On va parler de la question syrienne. Au début de cet été, Amnesty International appelait les membres du Conseil de sécurité de l'ONU à faire appliquer la résolution de 1139 qui demande l'arrêt des attaques menées sans discernement ou directement sur la population civile en Syrie. Amnesty qui appelle le Conseil de sécurité à prononcer des sanctions contre la Syrie dans un communiqué donc publié en juin dernier et qui rappelle qu'en vertu du chapitre 7 de la Charte des Nations Unies, le Conseil de sécurité est autorisé à appliquer des sanctions économiques et militaires pour faire appliquer ces résolutions. Qu'est-ce que ces injonctions, ces rappels d'une ONG à l'ONU dit aujourd'hui de l'autorité qu'elle a encore, Guillaume Devin ?
D'abord, une remarque générale, une ONG s'adresse au Conseil de sécurité, situation qui était totalement impensable il y a une cinquantaine d'années. Le Conseil de sécurité, je le dis, c'est une parenthèse, mais ses méthodes de travail, son ouverture ont considérablement changé depuis les années 90. Maintenant, pour revenir à la question que vous posez sur le dossier syrien, nous connaissons la situation. Le Conseil de sécurité est bloqué. La situation politique n'avance pas au Conseil de sécurité et à partir du moment où le Conseil de sécurité est un peu le directoire dans l'ensemble de l'édifice institutionnel onusien, le directoire qui prend les décisions et qui est chargé en principal du maintien de la paix et de la sécurité internationale avec l'arsenal coercitif dont vous parliez du chapitre 7 et notamment des sanctions, à partir du moment où ce directoire ne fonctionne pas, les choses ne peuvent pas avancer. Si elles pourraient tout de même avancer, là encore, si on contournait le Conseil de sécurité et si on s'adressait de manière plus offensive, plus audacieuse à l'Assemblée générale. Car l'Assemblée générale a déjà pris des initiatives en considérant que comme le Conseil de sécurité n'arrivait pas à avancer, elle pouvait être habilitée à proposer des solutions, à envisager des projets de résolution. Et je pense que, là encore, s'il y avait un engagement politique, notamment d'un certain nombre de puissances européennes, on pourrait peut-être, non pas débloquer définitivement la situation, mais peut-être avancer et pousser un peu plus en avant les feux de la négociation.
Marc Lavergne, sur cette question de la temporalité de l'action de l'ONU, est-ce qu'on peut contourner, est-ce qu'on doit contourner le Conseil de sécurité?
Je trouve que cette suggestion de s'adresser à l'Assemblée générale pour contourner le Conseil de sécurité serait évidemment un désaveu du Conseil de sécurité et poserait des problèmes, alors là, de grande magnitude à l'échelle des grandes puissances qui l'accepteraient difficilement. Mais il ne faut pas oublier non plus que sur les 194 États membres de l'ONU, deux tiers sont des dictatures ou des régimes autoritaires qui n'ont pas forcément d'appétence compétences pour la démocratie, pour le respect d'institutions internationales et pour promouvoir des sanctions qui pourraient se retourner contre eux.
Pierre-Olivier François, sur cette question de possible réforme de l'ONU, de transformation de l'ONU, transformation de fonctionnement en tout cas à l'intérieur de l'ONU, est-ce que vous prononcez pour un contournement, pour le fait de privilégier en tout cas cette adresse à l'Assemblée générale, vous qui avez
Je crois que si on travaille sur l'ONU, on apprend à travailler sur la frustration parce que on découvre ce que c'est la réelle politique, avec le droit de veto, avec la puissance des grandes puissances. Quand elles veulent faire quelque chose, ça avance. Et de fait, dans beaucoup d'endroits, beaucoup plus qu'on ne croit, les grandes puissances, en gros, s'entendent. Mais là où elles ont des intérêts majeurs, où elles pensent avoir des intérêts majeurs, et on le voit en Syrie, on le voit en Ukraine, elles reprennent leur rôle ou leur place de grande puissance. Et c'est pas quelque chose à négliger. Si elles sont grandes puissances encore aujourd'hui, c'est parce que militairement et politiquement et souvent aussi nucléairement, elles ont la capacité de se faire entendre. Donc, si encore une fois, je serais ravi si l'Assemblée générale arrivait de temps en temps à dépasser son mode de fonctionnement, disons, un peu répétitif, pour être plus engagé et mettre le Conseil de sécurité en porte-à-faux là où il l'est, ce serait parfait. Mais jusqu'ici, ça se fait peu. Le Conseil de sécurité, ça fait 20 ans qu'on essaie de le réformer, ça fonctionne assez peu. Et les rares fois, on a essayé de le contourner très efficacement, enfin, de manière très forte. Je crois que c'était la dernière fois pour la guerre en Irak. Ça n'a pas été un succès très très fort. Donc, l'ONU, c'est souvent ce qui reste. Une fois qu'on a essayé toutes les autres solutions, c'est le moins pire. On fait avec les contraintes qu'on a, et puis après, sur place, on adapte, on essaye de faire fonctionner, on bricole, et comme vous le disiez tout à l'heure, il y a quand même beaucoup, beaucoup d'évolutions qui se sont faites en 20 ans en faisant les choses.
La question de ce droit de veto en Syrie, qui a mis 2 ans justement à se mettre en place, 2 ans après le début du conflit syrien, ça a durablement entamé la crédibilité de l'ONU, Guillaume Devin ?
Durablement entamé, en tout cas, la crédibilité du Conseil de sécurité à régler situations de guerre et des conflits majeurs faisant des centaines de milliers de morts, des millions de réfugiés. Oui, ça, très certainement. Mais il peut y avoir aussi une stratégie en dehors du Conseil de sécurité, ou en tout cas pour essayer de faire bouger le Conseil de sécurité. Donc la crédibilité des Nations Unies n'est pas uniquement réduite, rétrécie aux seules résolutions impossibles du Conseil de sécurité.
Et par quoi elles doivent passer justement ces actions de l'ONU qui ne sont pas obligées de passer par le Conseil de sécurité? Par rapport à la question syrienne, l'opinion publique attendait peut-être une réaction plus rapide ou plus forte que de simples condamnations.
Il y a quand même eu jusqu'à maintenant 3 médiations qui ont été tentées dans l'affaire syrienne. 3 médiateurs onusiens qui ont été
dont l'un a démissionné,
les 3, comme vous le savez, en échec. Mm. Mais là encore, l'administration des Nations Unies fait avec le peu de marge de manœuvre qu'elle a lorsque le mécanisme principal, c'est-à-dire le Conseil de sécurité, est politiquement bloqué.
Est-ce que la mission et la voix de l'ONU devient urgente aujourd'hui, Marc Lavergne, dans ce contexte où la sécurité, comme je le disais en début d'émission, n'a pas de frontières en citant un ancien haut fonctionnaire de l'ONU?
Je pense pas que l'ONU puisse être aujourd'hui réformée, redressée. Elle a tant d'échecs à son actif. Pensez au Darfour. Il n'y a pas un seul des 2,5 millions de déplacés depuis 10 ans qui soit rentré. 10 ans, c'était en 2004, donc c'est encore plus ancien, qui soit rentré chez soi. Et c'est un fonctionnaire de l'ONU qui a eu le courage de dénoncer la situation au Darfour, comme ça avait été un fonctionnaire de l'ONU, le général Dallaire, qui avait dénoncé la situation au Rwanda. Tous les deux ont été punis, évincés de l'organisation immédiatement. Ils l'ont payé très très cher par la fin de leur carrière. Donc l'ONU a vraiment un problème à l'intérieur, en dehors de tout ce qu'on vient de dire. Hein. C'est pas pour dire que ce qu'on a dit n'est pas pertinent, mais il y a vraiment un problème au fond. Et je pense qu'on devrait plus se retourner vers les organisations régionales. Je pense à l'IGAD en particulier à propos du Sud-Soudan, c'est-à-dire l'organisation régionale intergouvernementale qui était initialement contre la sécheresse et aujourd'hui qui est pour le développement. Qui arrive finalement à mettre autour de la table des pays qui sont hostiles les uns aux autres, l'Érythrée, l'Éthiopie, la Somalie, l'Éthiopie, etc., pour essayer de dégager, parce que eux sont concernés. Il s'agit d'un problème de voisins, il s'agit d'un problème économique, politique, culturel, où ils se sentent. Alors il faudrait peut-être multiplier ce genre d'opérations et les soutenir, multiplier ce genre d'institutions qui ont à la fois un côté développement technique et puis politique.
Multiplier ce genre d'opérations et multiplier aussi les engagements du Conseil de sécurité de l'ONU, d'autres chercheurs élèvent leur voix pour que l'ONU s'engage un peu plus contre le réchauffement climatique, contre les questions liées au terrorisme mondial. Est-ce que c'est aussi votre avis, Guillaume Devin ?
Je voudrais revenir, là, si vous me permettez,
je vous en prie.
D'abord, sur cette question quand même de la perspective. La discussion que nous avons aujourd'hui, elle signifie quoi ? Elle révèle quoi ? Elle révèle quand même des attentes assez considérables à l'égard des Nations Unies. Est-ce que nous avions ces attentes il y a 30 ou 40 ans ? Est-ce que nous avons parlé des Nations Unies au moment de la crise de Berlin en 61 ?
Mais peut-être que si ces attentes se font entendre, c'est parce que les États ne répondent pas à leur échelle à ces attentes-là.
Ce que je veux dire, c'est que les attentes que nous avons aujourd'hui, elles montrent quand même que les Nations Unies occupent une place relativement importante dans les relations internationales contemporaines, ce qui n'était pas du tout le cas il y a une quarantaine d'années. Savez-vous qu'on n'a jamais parlé de la guerre du Vietnam aux Nations Unies ? Hein, jamais celle-ci n'a été mise à l'agenda de l'Assemblée générale des Nations Unies. Bon, donc... Les attentes sont très fortes. Évidemment, comme les attentes sont très fortes, les déceptions sont également très fortes. Alors, il y a tout un tas d'éléments de réflexion. Par exemple, sur le maintien de la paix, les organisations régionales. Mais les organisations régionales, je dirais que les Nations Unies, depuis le rapport Brahimi, c'est-à-dire depuis les années 92, ont engagé un dialogue régulier. Aujourd'hui, pratiquement toutes les organisations régionales sont convoquées, sont invitées aux délibérations du Conseil de sécurité lorsque ces délibérations concernent leur zone. Le partenariat régional, comme on l'appelle, il est extrêmement développé. Mais attention, les organisations régionales et le maintien de la paix régionale peut avoir aussi ses revers. Parce que souvent, l'organisation régionale masque la réaction d'une puissance dominante qui habille son intervention, je dirais, sous les dehors d'un multilatéralisme régional. Mais en fait, ce n'est purement et simplement qu'une hégémonie. Le Nigeria, par exemple, pour la CDAO, la Russie, pour la communauté des États européens...
Sur cette question, je voudrais entendre Pierre-Olivier François pour finir, car nous arrivons à la fin de l'émission. Vous dites de votre expérience, de ce que vous avez vu sur la frontière Israël-Liban, que le mandat, en fait, du Conseil de sécurité de l'ONU, c'était pas vraiment de maintenir la paix, mais plutôt d'empêcher la guerre, en fait.
Souvent, enfin, ça dépend. Celui de au Liban, c'est une ancienne mission, hein,
en 30 secondes,
1978. Donc, mais oui, je pense que ce qu'on disait, c'est que le casque bleu, le bleu de l'ONU, ça a encore une vraie légitimité sur place. Pour beaucoup de gens, c'est encore vu comme quelque chose qui représente le reste du monde qui vient sur place donner un coup de main, aider les populations civiles, essayer de les sortir souvent de situations extrêmement compliquées, et que dans les problèmes qu'on a à faire aujourd'hui, donc ça c'est des problèmes pour l'instant souvent interétatiques ou à l'intérieur d'un État, mais que de plus en plus on sera confronté à des problèmes qui traversent les frontières, les réfugiés, le climat, les crises économiques, le virus Zika,
des enjeux internationaux qui n'ont plus de frontières. Merci beaucoup à vous tous, Guillaume Devin, Marc Lavergne, Pierre-Olivier François. Je rappelle le titre de votre film, Pierre-Olivier François, l'ONU dernière station avant l'enfer, produit par Arte. Des liens, des références pour alimenter l'émission du jour sont à retrouver sur notre site franceculture.fr à la page du Grain à Moudre d'été, où vous pouvez aussi réécouter, podcaster cette émission. Merci à l'équipe du Grain à Moudre d'été, Chloé Leblanc, Philippine Lebray, Meryl Moneghetti, Tanguy Omri, Milena Elig à la réalisation. Ce soir à la prise de son, c'était Nicolas Delmas. Merci aussi à l'équipe technique de France Bleu Fréquence. Camora à Bastia, qui nous a permis d'être en lien avec Pierre-Olivier François. Bonne soirée à tous et à lundi.